Bienvenue au Bistrot des Ethnologues pour cette nouvelle année. Vous voyez que nous avons déménagé, nous sommes accueillis par le Blablavar. Nous avons dû quitter la laiterie qui nous a laissé en plein, puisqu'elle a brûlé, vous le savez, il y a quelques mois. Donc nous sommes d'autant plus reconnaissants au patron du Blablavar qui nous accueille gentiment ici. Donc cette année 2011-2012 va nous permettre de repartir sur la programmation habituelle que nous vous proposons, où nous accueillons des ethnologues, quelquefois aussi des sociologues. Et donc cette année, comme vous l'avez vu dans le programme que vous nous avons distribué, qui sort juste frais de l'imprimerie, l'encre est à peine séchée, proposée. Donc nous allons le plaisir d'entendre Joël Noré tout à l'heure, mais un collègue à moi va s'occuper de cette présentation, il ira plus loin dans les informations qui vous seront proposées. Je vous signale que le 8 novembre, par contre, nous accueillerons Jean-Louis Poietto, qui va nous parler des Manouches et de leur rapport à l'écrit, de leur rapport difficile à l'écrit. Slimane Touami évoquera, lui, le mauvais œil dans le Maghreb. Une question qui se pose aussi chez nous, hein. C'est pas une problématique exotique. Jusqu'aux années 60, dans les Cévennes, cette question a hanté pas mal de fermiers, vous le savez. Le 10 janvier, Frédéric Keck abordera le problème de la peur de la grippe aviaire sans doute. Je n'ai pas lu le livre, je ne vais pas pouvoir vous en parler davantage. Sébastien Roux, le 7 février, va évoquer le tourisme sexuel. C'est le résultat d'une enquête de longue durée d'ailleurs sur ce terrain. Le 6 mars, nous accueillons Françoise Bouillon qui va nous parler du squat. Elle va évoquer la question de cette mobilisation dans le cadre de la lutte des classes. C'est une approche assez originale, puisqu'on n'a pas l'habitude de rapporter ce phénomène-là à la lutte des classes en général. Et enfin, nous accueillerons aussi Marc Auger, qui va nous parler des trois ethnologies. Je n'ai pas lu son ouvrage, j'ai un peu honte. Enfin, Martine Berck nous parlera du fleurissement et de l'ethnologie des jardins ordinaires. Et nous aurons cette année le plaisir de vous accueillir au cinéma du Celles-Neuves, qui s'appelle Nestor Burma, où nous accueillons le Festival international du cinéma ethnographique Jean Rouch. Voilà pour cette année 2011-2012. Voilà. Je voulais rajouter aussi que cette manifestation existe depuis 1993. Vous le savez, certains d'entre vous sont là des piliers indéfectibles du bistrot. Je les remercie d'ailleurs pour leur fidélité. Vous savez que cette manifestation ne pourrait avoir lieu sans les aides de certains financeurs, de certaines collectivités, mais d'abord aussi et surtout celle du ministère de la Culture, dont le représentant est absent ce soir, mais on a une pensée tous pour Christian Jacquelet, bien sûr. La collectivité de la ville de Montpellier, qui nous aide, bien sûr, et le Conseil général de l'Hérault. Donc la région ne nous finance pas en dépit de son logo. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée.
Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Bon, bonsoir. Je vais présenter brièvement Joël Noré, qui est un ami et collègue. Joël Noré, il est aussi collègue de terrain parce que pendant quelques mois, on a partagé le même terrain dans les Bénans. Donc, pour moi, ça a été aussi au moment où j'ai commencé un nouveau terrain, un guide très. Bon, j'ai eu le privilège d'être guidé par Joël, qui a une connaissance du terrain tout à fait remarquable. Il a passé plusieurs années entre 2000 et 2000, et aujourd'hui, on peut dire. Donc, il est anthropologue, professeur à l'Université libre de Bruxelles. Il est un spécialiste de l'anthropologie des rituels et funéraires, hein, mais disons, comme vous verrez au cours de sa présentation, il dépasse aussi ces domaines de spécialisation qui pourraient vous paraître un peu restreints, et il utilise vraiment, disons, l'anthropologie et des rituels funéraires et du deuil comme un prisme à travers lequel étudier et analyser les changements sociaux au Bénin, et pas seulement au Bénin. Donc aujourd'hui, il présente son livre sur les rituels funéraires et le deuil dans les Bénins, qui a pour sous-titre « Enterré à tout prix ». Et nous verrons pourquoi ce sous-titre, un peu ironique et en même temps tout à fait significatif. Et Joël Noré, il a aussi travaillé sur les mémoires de l'esclavage. Nous avons coordonné ensemble un numéro spécial de la revue Gradiva sur les mémoires de l'esclavage dans les Bénins méridionales. Il a aussi travaillé dans d'autres contextes que les Bénins. Il est l'auteur, avec Pierre Petit, de « Mort et dynamique sociale au Katanga ». Et il vient de sortir sous sa direction un livre sur les funérailles, sur les funérailles en Afrique. C'est Funerals in Africa, c'est un livre en anglais qui vient de sortir et dont il a été un des deux coordinateurs. Moi, je propose de lui laisser la parole. Après, à la limite, on reviendra avec des commentaires à la fin de son exposé. Je vous remercie beaucoup.
Ouais, voilà. Tout d'abord, merci Gaetano pour cette gentille introduction. Merci aussi à l'Arcé de m'avoir invité à présenter cet ouvrage ici à Montpellier. Alors effectivement, c'est un ouvrage qui repose sur c'est un ouvrage qui repose sur environ 2 ans de recherche, d'enquête de terrain menée de façon discontinue. Quand même, mais là, c'est pas grave. Non, plus. Non, c'est bon, c'est pas grave. Donc, c'est un ouvrage qui repose sur environ 2 ans d'enquête de terrain menée de façon discontinue dans la première partie des années 2000 essentiellement. Et donc, dans cet ouvrage, donc Deuil et funérailles dans le Bénin méridional, j'ai essayé de développer essentiellement deux problématiques. Hein. Alors, la première, c'est une forme d'anthropologie du changement social menée au prisme des funérailles. Hein. C'est ce que les funérailles nous disent du changement social, en quoi elles constituent une porte d'entrée plus ou moins suggestive pour donner à voir des dynamiques sociales peut-être plus générales qui traversent la société du Bénin méridional. Donc le Bénin méridional, je ne sais pas si tout le monde situe, c'est sur la côte occidentale de l'Afrique, hein, donc une petite bande de terre coincée entre le Nigeria et une autre petite bande de terre qui est le Togo. Et donc c'est dans le sud du Bénin que j'ai mené l'essentiel de mes enquêtes. Donc la première problématique qui traverse cet ouvrage, une anthropologie du changement social au prisme des funérailles. Et la deuxième problématique, c'est une espèce de retour sur cette vieille question anthropologique qui est celle de l'articulation des funérailles et du deuil psychique. Alors tout d'abord donc une anthropologie du changement social au prisme des funérailles. Hein. Bon, il faut savoir que pendant la période classique de l'ethnologie africaniste, disons, il y a eu une forme disjonction ou d'évolution séparée des recherches menées d'un côté sur les funérailles et de l'autre des premiers travaux qui ont été menés sur la question du changement social. D'un côté, il y avait des recherches sur les funérailles qui se focalisaient largement sur les cultures ethniques et la complexité des ritualités dites coutumières ou traditionnelles. Et de l'autre, on a vu, donc en France, à partir des travaux de Balandier essentiellement, dans le monde anglo-saxon un peu plus tôt avec l'école de Manchester, mais toute une série de travaux donc qui ont commencé à travailler sur des questions de migration, d'urbanisation, d'évolution des styles de vie dans les contextes urbains, etc. Mais donc des travaux menés sur le changement social africain qui se sont très longtemps désintéressés en fait de la question des funérailles, celles-ci restant abordées essentiellement dans des contextes ruraux et donc à travers essentiellement le prisme de ces ritualités coutumières et de la une littérature donc qui soulignait alors la complexité des logiques rituelles qui menaient du mort à l'ancêtre, etc., à travers toute une série d'étapes rituelles. Alors, l'un des partis pris de mon ouvrage, c'était donc d'opérer une sorte de double rupture avec ça, hein, donc à la fois de remettre la question du rituel en perspective par rapport à tout ce qui l'entoure et par rapport à tout ce qui le précède, hein, au niveau de l'organisation, tout simplement des obsèques, avant qu'on en arrive à la performance des rituels, et d'autre part de lâcher un petit peu le prisme ethnique, hein, pour se focaliser sur une région et aborder la question à travers de façon transversale dans les différentes cultures ethniques qui cohabitent d'ailleurs dans cette région qui est le Bénin méridional, pour des raisons historiques sur lesquelles je ne vais pas revenir. Donc c'est là une des premières justifications du sous-titre, enterré à tout prix. Ben c'est parce que tout d'abord, dans le Bénin méridional, comme dans plusieurs autres régions d'Afrique, eh bien les funérailles sont des occasions de mise en branle et d'emballement un peu de l'activité économique, hein, puisque ce sont des événements dans lesquels les gens s'investissent de façon intense, en y engageant tous leurs moyens et même au-delà, hein, et ça constitue quelque chose qui relève pas effectivement de ces ritualités traditionnelles, etc. C'est en amont de l'organisation des funérailles, il y a d'abord d'extraordinaires quêtes de moyens. Les gens font le tour de leurs connaissances, font le tour de leurs collègues, s'organisent au niveau des grandes familles, des familles étendues, des lignages, pour mettre en place des cotisations, et puis sollicitent dans leur réseau personnel toute une série de contributions de la part de leurs amis et collègues. Pendant ce temps-là, de plus en plus, le défunt, eh bien, il est à la morgue, parce que ça, c'est une autre évolution tout à fait importante des dernières décennies, c'est-à-dire qu'à partir du début des années 1980 et encore plus dans les années 90, hein, on voit se développer et puis désormais se banaliser le recours aux morgues, hein, ce qui veut dire qu'il y a toute une transformation aussi de la gestion des cadavres, des personnes impliquées dans le traitement des corps. Hein, mais avant tout, peut-être une évolution assez radicale de la structure temporelle des funérailles, puisque désormais, lorsque le défunt est une personne relativement âgée, hein, ou enfin disons quelqu'un qui a déjà des enfants adultes, hein, eh bien il n'est pas rare, et il est même dans la majorité des cas, c'est le cadavre va rester 2, 3, voire 4 ou même davantage, 4 semaines ou davantage. À la morgue, le temps de préparer des obsèques dignes de ce nom, si vous voulez. Donc, alors qu'avant, eh bien, la façon dont les choses se passaient était différente, puisqu'il n'y avait pas cette médiation technologique, en quelque sorte, hein, et on avait un corps dont on disposait assez rapidement en petit comité, parce qu'on n'avait pas le temps de prévenir énormément de monde avant de devoir procéder à l'inhumation. Et puis, on avait un investissement social maximum qui portait sur des cérémonies postérieures, des cérémonies lignagères liées au, à un cycle d'ancestralisation qui était organisé plusieurs mois après le décès, au moment où on avait pu réunir tous les moyens nécessaires à l'organisation de grandes cérémonies et mettre en branle l'ensemble des réseaux sociaux liés aux défunts et à ses enfants essentiellement. Toutes les familles, parents, alliés aux conjoints des enfants, etc. Or, aujourd'hui, donc, avec le développement et la banalisation du dépôt des corps dans les morgues, eh bien, on a désormais le temps de prendre toute une série de dispositions avant l'inhumation. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi dans toute cette espèce d'antichambre, ces coulisses des funérailles au moment où elles se mettent en place? Eh bien, c'est que bien souvent, il faut opérer toute une série d'arbitrages, hein, puisque le défunt a une région d'origine, mais il peut avoir migré, s'être installé ailleurs, et certains voudront l'enterrer sur son lieu de migration, d'autres voudront l'enterrer sur son lieu d'origine, dans la concession lignagère. Dans le lignage dont il est un enfant, métaphoriquement, dont il ne cesse jamais d'être un enfant. Il faudra arbitrer aussi la question du registre religieux des obsèques. Hein. Vous savez que, alors traditionnellement, bon, le Bénin méridional, c'est la religion, la région d'origine de ces cultes vaudous dont on entend parler parce que la traite atlantique les a fait se répandre dans l'ensemble de ce qu'on appelle le monde atlantique, donc sur les deux rives de l'Atlantique. Mais donc il y a des formes de culte coutumier qui implique une série de rituels qui peuvent impliquer une série de rituels au décès de quelqu'un, mais on est dans une région aussi marquée par un changement religieux assez important et donc des conversions de plus en plus massives à différentes formes de christianisme ou à l'islam. Donc là encore, les positionnements des gens, de leur vivant, ne sont pas toujours extrêmement clairs. Ils peuvent être des catholiques plus ou moins fervent, être resté plus ou moins fidèle aux institutions lignagères et avoir continué à participer de façon épisodique ou bien au contraire de façon engagée au culte lignager des ancêtres ou à d'autres formes de culte qui sont organisées au niveau des familles étendues. Et toutes ces ambiguïtés des personnes, en fait, au moment de se poser la question « mais comment est-ce qu'on va l'enterrer ?», eh bien, elles ressurgissent, puisque certains vont dire « ah, mais mon père, vous savez, il était catholique, il ne faut plus organiser ses rites pour lui ». D'autres vont dire mais non, il envoyait chaque année de l'argent pour les cérémonies aux ancêtres, on va faire pour lui les cérémonies lignagères. Et donc ça c'est susceptible de donner lieu à différentes formes de conflits, mais d'une manière générale, on sait bien aussi que l'unité de la famille n'a pas de prix et que il faudra à un moment, d'une certaine façon, s'entendre et trouver une forme de compromis sur un ordre négocié des funérailles. Alors ça peut être des formes de compromis relativement tendues, hein, bien entendu, ce sont des moments où la ruse peut aussi tenir tenir une place relativement importante. Dans quelques cas extrêmes, enfin je les évoque pas comme ça dans le bouquin, mais là ça me vient à l'esprit, on a des formes même de détournement de cadavres, c'est-à-dire que les enfants d'un défunt, par exemple, s'entêtent à ne pas vouloir organiser pour leur père les cérémonies lignagères, alors que la famille étendue réclame l'organisation de telles cérémonies pour le défunt, et profitant d'un moment d'inattention, eh bien le cadavre est subtilisé aux enfants, on fait pour lui des rites que la famille étendue avait en tête d'organiser, et on rend le cadavre après aux enfants. Donc il y a des formes de conflits qui peuvent être extrêmement vives, mais il y a aussi dans la plupart des cas quand même une forme de compromis qui parvient à s'installer, compromis qui est souvent possible par la prégnance dans l'ensemble des mondes sociaux qui forment la société du Bénin méridional, d'une logique sociale quand même de cumul qui permet la cohabitation et plutôt que l'interpénétration, la juxtaposition de différents registres rituels, c'est-à-dire qu'on aura bien souvent une journée consacrée aux rites lignagés traditionnels, donc des fois souvent des tambours funèbres et divers rites de libation et de sacrifice qui les accompagnent, et puis une messe ou une absoute catholique ou bien un service protestant ou selon la filiation religieuse qui pouvait être celle du défunt. Donc les funérailles sont aussi des moments où se réalise toute une série d'arbitrages hein, qui donnent à voir des tensions hein, qui traversent la société du Bénin méridional et où donc les le fait que les gens soient investis dans différents univers sociaux, qu'ils soient membres de leur famille, mais qu'ils puissent aussi s'être convertis, qu'ils fassent partie d'un groupe professionnel, eh bien, tout ça fait qu'à leur mort, eh bien, il y a toute une série de choses qui souvent ne vont pas de soi et qu'il faut mettre sur la table explicitement pour trouver la façon dont il convient d'enterrer un défunt, ce qui donc en fait constitue des moments d'explicitation comme ça de choses qui dans la vie ordinaire peuvent rester à l'état disons pratique. Donc, ce qui est quand même derrière les divergences qu'il peut y avoir sur le lieu où il convient d'enterrer le défunt, sur la date qui convient pour l'enterrement, sur le registre religieux ou les registres religieux qu'il convient d'observer pour ces funérailles, une continuité forte qui traverse les différents mondes sociaux et religieux qui forment la société du Bénin méridional, hein, c'est quand même l'idée que les funérailles sont quelque chose d'extrêmement important, hein, et qu'il convient de prendre très très au sérieux quand on est fils ou beau-fils ou fille ou belle-fille d'un défunt en particulier, parce que ce sont des moments où la famille étendue ou et plus largement les membres des réseaux religieux, professionnels, amicaux, des individus vont voir de quoi les gens sont capables en termes d'investissement, parce que c'est une norme locale extrêmement partagée et extrêmement fortement intériorisée que les funérailles de ses parents constituent un devoir absolument essentiel pour les gens dès l'enfance. Les enfants sont habitués à entendre peut-être je n'ai pas d'argent mais au moins j'ai des enfants pour m'enterrer, c'est quelque chose qu'on peut dire de façon banale devant des enfants de 3-4 ans, enfin, ça leur met quand même une responsabilité sur les épaules, et donc c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant, le fait que enterrer ses parents constitue un devoir absolument fondamental de tout un chacun. Quand on rend un service très important à son père, une façon conventionnelle pour le père ou la mère de remercier un enfant, c'est de lui dire « tu m'as déjà enterré », ce qui ne libère pas véritablement du devoir d'enterrer. Mais donc c'est pour dire l'importance de la métaphore et l'importance qu'il y a donc à prendre la chose au sérieux pour les gens, puisque chacun va regarder. C'est pas seulement une affaire de relation à la personne, à son père ou à sa mère, qu'on peut ou qu'on aimer ou ne pas aimer, aimer tendrement ou aimer de façon plus plus lâche, mais on sait que tout le monde va nous juger sur le moment de l'organisation des funérailles. Donc c'est aussi une question de rapport, d'être pris au sérieux par les pères, voilà, par les pères du travail, de l'Église, de la famille, des amis, etc. Et donc c'est ça qui provoque ces formes d'emballement de la machine économique à l'occasion des funérailles aussi. Donc puisque ce sont des moments où affluent les cotisations, où on se met en quête de moyens jusqu'à s'endetter, hein, et les pratiques de l'usure au Bénin sont absolument délirante à certains aspects. Les gens achètent de l'argent, c'est le terme local, et effectivement les taux de remboursement sont exorbitants. Les gens mettent des objets en gage, s'endettent pour des années, et là aussi il y a des formes de tension, parce que les gens ne sont pas seulement des enfants engagés dans les funérailles de leurs parents, ils sont aussi des époux, des pères. Ils savent bien aussi ils savent bien dans quelles difficultés ils vont mettre leur famille en organisant de tels événements. Ils sont souvent écartelés entre parts d'eux-mêmes, et c'est là aussi une source de tension psychique et sociale importante, de tension dans les couples, de tension dans le vécu même des personnes pendant les semaines qui entourent l'organisation des obsèques. Quelle soit, à partir du moment où on leur donne ce relief particulier. Et c'est ce qui fait que les funérailles sont aussi des occasions de rentrée économique pour toute une série de professions, hein, des peintres, puisqu'on va repeindre bien souvent les maisons. Les photographes, les réalisateurs de reportages vidéo, le commerce des tissus, puisque depuis quelques décennies, ces funérailles sont dans la plupart des cas organisées en uniforme, c'est-à-dire qu'il y a un tissu qui est acheté par l'ensemble de l'assistance, ou en tout cas qu'on encourage l'ensemble de l'assistance à acquérir, et que en tout cas les membres de la famille plus ou moins proches devront toute façon acquérir. Donc il y a toute une série de commerces comme ça qui sont mis en branle par les funérailles dans des villes de province comme celle où j'ai travaillé à Ouida ou à Abomey, enfin qui sont des villes dont le nom évoque peut-être quelque chose à certains d'entre vous, qui sont des villes de province où l'activité économique est relativement réduite. Eh bien vous avez néanmoins toute une série un nombre impressionnant de boutiques de reportages vidéo, par exemple. Vous avez un nombre impressionnant de d'établissements qui proposent la location de bâches, de couverts, de tonneaux permettant de réfrigérer les boissons. Vous avez des femmes qui s'organisent pour faire des services traiteurs, etc. Et tout ça ne fonctionne pratiquement que le week-end, au moment où des gens reviennent de la capitale économique pour toute une série de funérailles qui se tiennent dans les villes à ce moment-là. Et sans les funérailles, eh bien c'est l'activité économique dans ces villes d'où sont originaires toute une série de personnes et où donc on enterre relativement massivement, l'activité économique dans ces villes qui n'ont pas d'industrie, où il y a très peu d'entreprises qui sont établies, serait encore bien plus mince, bien plus pauvre. Mais on a véritablement toute une sorte d'industrie funéraire qui tourne autour de cette gestion très qui est prise très à cœur de la mort, si vous voulez. Donc voilà. Ça, c'est cette première dimension à travers laquelle j'ai cherché dans ce livre à éclairer toute une série de dynamiques de la société du Bénin méridional à travers le prisme qu'offrent les funérailles qui constituent, à mon sens, Eh bien, des moments tout à fait suggestifs et intéressants pour comprendre et pour où se donne à voir de façon très explicite une série de choses qui mais sinon sont moins directement repérables, hein, qu'il s'agisse des arbitrages et des tensions sur lesquelles débouche le changement religieux, qu'il s'agisse de la place que peuvent prendre les grandes familles ou les lignages dans la vie de leurs membres, même lorsqu'ils ne résident plus sur les lieux des concessions lignagères et qu'ils ont émigré. Il y a toujours des moments comme ça où ils retournent et où les choses doivent être clarifiées et arbitrées, etc., etc., que ce soit encore cette dimension économique qui est particulièrement saillante dans l'antichambre et dans les coulisses de ces grandes funérailles. Alors une deuxième dimension, et c'est un peu là le jeu que j'ai cherché un peu à jouer sur l'expression enterrer à tout prix, puisque d'un côté on a cette espèce d'emballement économique, mais de l'autre côté enterrer à tout prix, c'est parce que les gens s'investissent très enfin j'ai commencé à en parler, s'investissent très fortement dans les funérailles, et que je pense que qu'on peut chercher à comprendre ces funérailles comme un moment significatif dans le deuil psychique. Alors même si évidemment funérailles et deuil psychique sont deux choses différentes, je pense aussi qu'elles sont articulées et c'est là une des choses que j'ai essayé également de faire dans l'ouvrage. Alors les théories du deuil psychique, eh bien en psychanalyse la plus fameuse et la plus influente probablement, puisqu'il y a jusqu'à aujourd'hui des bouquins qui sont écrits dans cette perspective, eh bien la théorie freudienne du deuil psychique, c'est une théorie du désinvestissement et de la substitution, du désinvestissement de l'objet qui, à l'issue du processus de deuil, a fait l'objet d'une substitution. La libido s'étant reportée sur un objet, de substitution précisément, la libido s'étant déplacée vers un nouvel objet d'attachement. Alors cette théorie a fait l'objet de différentes critiques depuis plusieurs décennies, mais celle dont je me suis inspiré, celle qui m'a semblé la plus pertinente par rapport aux questions que je me posais, mais c'est une critique qui a été formulée par un autre psychanalyste au départ qui s'appelle Jean Allouche, qui a écrit un livre tout à fait remarquable qui s'appelle Érotique du deuil au temps de la mort sèche. Et la critique d'Allouche part de l'idée que considérer que le deuil repose sur un processus de substitution d'objets et de désinvestissement puis de substitution, eh bien ça implique d'une certaine manière que cet objet était neutre et que donc il peut être facilement qu'il peut y avoir facilement une substitution qui s'opère de l'objet vers un autre objet. Ce qui évidemment est loin d'aller de soi, dans la mesure où une personne à laquelle on était attaché est loin d'être neutre, et que dès lors le processus de concevoir que le deuil passe par un processus de substitution est loin d'aller de soi, et pose un certain nombre justement de questions par rapport à la neutralité de l'objet qu'une telle perspective implique de façon implicite. Donc la critique d'Allouche se repose sur l'idée que le deuil n'est pas un processus de désinvestissement de l'objet, mais un processus à travers lequel les sujets supplémentent leur perte d'un bout de soi, dit Allouche, et en fait donnent quelque chose au défunt. Pour opérer cette douloureuse transformation de la relation au mort, en quoi consiste le deuil. Alors, à partir de cette perspective, eh bien, moi, j'ai cherché donc à réenvisager la question de l'articulation des funérailles et du deuil psychique en cherchant à à penser les funérailles à certains égards comme un don. Puisque en anthropologie aussi, il y a toute une tradition de réflexion sur le don, hein, et on sait bien que d'une certaine manière, on peut considérer le fait de donner comme une forme de alors donner à quelque chose, c'est d'une certaine manière s'en débarrasser, mais aussi marquer le lien à la personne, hein, donc c'est se séparer et c'est affirmer la relation tout à la fois, c'est la double phase du don, hein, c'est que à la fois on se sépare de l'objet, mais en même temps qu'on se sépare de l'objet, on affirme la relation. Et je pense que dans les funérailles, il y a quelque chose qui fonctionne comme ça, et que dans le deuil, il y a aussi quelque chose qui est de cet ordre-là, puisque à travers les funérailles, on marque à la fois la relation, et c'est aussi un moment où on consacre la transformation profonde et la séparation d'avec le défunt. Et dans un contexte comme celui du Bénin méridional, où on a une dans une société comme celle du Bénin méridional, où on a une forte valorisation sociale des funérailles, eh bien je pense que cette question est d'autant plus aiguë, hein, puisque si les funérailles mettent en branle des dynamiques sociales de différents ordres, hein, puisqu'il s'agit j'en ai parlé dans la première partie de mon exposé de bien des choses, je pense qu'on peut pas non plus évacuer totalement la question du rapport au défunt, et que funérailles et deuil psychique sont des phénomènes tout à fait différents, puisque le deuil psychique, de la même manière que les funérailles excèdent à plusieurs égards le deuil, le deuil psychique lui aussi excède à plusieurs égards les funérailles, va bien au-delà. C'est pas quelque chose qui est liquidé une fois qu'on a fait les funérailles, ou même qu'on a fait une série de rituels qui peuvent suivre dans certaines sociétés le rite des funérailles proprement dit. Le deuil psychique, c'est quelque chose qui prend place à la fois dans des contextes rituels et dans les contextes beaucoup plus ordinaire de la vie quotidienne. C'est pas non plus un processus linéaire, puisqu'à certains moments on peut disons avoir l'impression qu'on est un peu passé au-delà de la perte, et puis être repris par des mouvements de peine et des formes de retour de l'expérience du manque, de la perte, de la douleur, etc. Ceci dit, donc, je pense qu'il faut aussi concevoir deuil psychique et funérailles comme deux phénomènes articulés, et que le fait de concevoir les funérailles comme une forme d'hommage et de don rendu aux morts, puisque quand on enterre ses parents, c'est des gens auxquels on, dans les perspectives locales, on doit, hein, et donc que le don des funérailles se situe bien davantage du côté du retour et du contre-don que du don que d'un don dont on prendrait l'initiative. Eh bien, je pense que c'est là une façon qui rend bien compte, d'une certaine manière, des perspectives locales sur les funérailles et de la place qu'elles peuvent occuper dans l'économie psychique des acteurs qui s'y investissent. Alors, ceci dit, Ceci dit, mon argument n'est pas non plus. Je pense que les sociétés où on assiste à des pratiques funéraires plus sobres ou plus limitées sont davantage des sociétés à deuil pathologique. Je pense qu'il faut aussi bien voir que ces sociétés où les investissements psychiques dans les funérailles sont extrêmement importants, sont aussi des sociétés où si on n'assure pas, si on n'est pas à la hauteur, si on n'arrive pas à faire les choses de façon à ce que les pères posent un regard approbateur sur la façon dont on a organisé les choses, mais si on n'arrive pas à ça, eh bien... peu importe, je dirais, l'élaboration rituelle de la mort, eh bien, on est face à un manque et on passe à côté du sentiment du devoir funéraire accompli. Donc, je pense pas qu'on puisse généraliser cette importance des funérailles et que ce soit là quelque chose qui puisse être considéré comme un universel qui caractériserait l'humanité de façon transculturelle et transhistorique. Et je pense pas non plus que les formes de sobriété funéraire qu'on repère dans toute une série de sociétés à travers l'histoire également soient nécessairement des formes plus... Des formes d'encadrement de la mort qui fassent courir davantage de risques qu'on arrive à des formes de deuil pathologique, puisque dans le Bénin méridional, j'ai aussi rencontré des gens qui, n'ayant pas pu investir comme ils le souhaitaient dans les funérailles de leurs parents ou de d'autres personnes dont ils avaient le devoir d'organiser les funérailles, traînaient après cette forme d'échec, une sorte de malaise psychique persistant, puisque j'ai vécu dans des familles où des choses comme ça s'étaient produites, et où on voyait bien que le fait de ne pas avoir été à la hauteur au moment où on aurait dû pouvoir s'investir et enterrer au-dessus de ses moyens, provoquait des formes de malaise et de malaise, de mal-être psychique. Donc voilà, mais pour... Voilà, je pense que je vais m'arrêter là.